Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers amis.
Ravi de vous retrouver comme d'habitude. On espère que vous allez bien et Daniel, l'année 2022 touche à sa fin. C'est donc peut-être l'occasion aujourd'hui de faire un petit bilan, une petite rétrospective des grands événements géopolitiques qui se sont déroulés au cours de toute cette année 2022. Bon, on va pas faire trop de suspense. La guerre en Ukraine a bien dominé, mais finalement, Daniel, peut-on décrypter un petit peu plus en profondeur les éléments qui ont dominé cette année 2022?
C'est vrai que c'est la guerre en Ukraine. Elle a commencé au début de l'année, en février, et elle se termine par cet événement géopolitique au symbole très fort qu'est la visite de Zelensky aux États-Unis. Ça a été bien compris par tous les observateurs qui ont dit que c'était un élément très fort. Donc, elle commence par l'Ukraine, elle finit par l'Ukraine, et donc ça a dominé. Le deuxième, si on devait parler d'un deuxième fait important qui touche le monde pendant l'année 2022, c'est la crise économique qui touche tout le monde, qui touche donc chaque pays dans le monde. Et dans chaque pays, il y a aujourd'hui, et ça monopolise à mon avis beaucoup plus l'intérêt des populations que même la guerre en Ukraine, qui est quand même un peu lointaine, c'est la mise en cause du pouvoir d'achat, et avec évidemment toutes les protestations sociales et politiques qui sont derrière. Donc on a vécu avec cette crise, et la relation entre les deux, c'est pas tout à fait faux que la crise économique que nous vivons est directement liée à la crise en Ukraine. On sait que c'est pas tout à fait vrai, que l'inflation et que les dangers sur les échanges mondiaux ont précédé évidemment la guerre en Ukraine, ne serait-ce que parce qu'il y a eu le Covid. Il y a cette grande disruption mondiale qui est le conflit entre la confrontation entre les États-Unis et la Chine, qui rend les échanges économiques plus incertains. Mais c'est vrai que les deux sont liés. Alors sur la guerre en Ukraine, puisque vous voulez qu'on aille un petit peu plus en profondeur, ce qui est remarquable, c'est la réaction du monde par rapport à cette guerre. L'Occident, c'est-à-dire surtout les États-Unis, si on compare à la réaction que les États-Unis ont eue devant les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, où les États-Unis ont tergiversé, ont été lents à intervenir. Pour la première guerre mondiale, ils sont venus qu'à la fin, en 1917. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, ils sont vraiment intervenus que quand ils ont été attaqués directement par les Japonais. Donc ils ont été lents à la détente. Là, ils ont immédiatement réagi, c'est-à-dire que dès que l'invasion de l'Ukraine a été perceptible, tout de suite Biden a dit « ça nous concerne, mais », il a tout de suite mis une limite, « nous n'allons pas faire la guerre à la Russie ». Donc c'est une grande différence avec les deux guerres mondiales. On ne demande pas à l'Amérique de participer directement à la guerre, mais de fournir ce que l'Amérique sait faire de mieux, fournir de l'argent, fournir de l'arme et fournir des informations. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis le début. Et donc, si vous voulez, le point d'orgue de la visite de Zelensky est très intéressant. C'est que les Américains sont enchantés d'avoir un partenaire comme Zelensky, c'est-à-dire un pays qui dit, nous sommes prêts à nous défendre nous-mêmes. Nous demandons à personne de venir mettre la vie en danger. Et si vous voulez, dans le monde, les Américains ont deux chouchous. Parce que ce sont deux pays qui sont prêts à verser leur sang et à prendre leurs responsabilités, c'est l'Ukraine et c'est Israël. Et donc, quand on a des pays comme ça, c'est une chance pour les États-Unis, et ça, Zelensky l'a bien compris, et donc c'est une chance pour les États-Unis. Donc, ils ne mesurent pas l'aide qu'ils vont donner. Donc, c'est une aide au fond sans limite qu'on va apporter à Israël et à Zelensky. Quand on trouve des gens qui sont prêts à se défendre eux-mêmes, c'est le rêve de Obama, qui a dit à partir de maintenant, dans les années 2010, les États-Unis ne veulent pas être au premier rang, mais on veut bien être derrière, avec toute la puissance financière, militaire et d'information, mais on ne veut pas mettre de soldats américains là-bas. Donc, la guerre en Ukraine, c'est vraiment le modèle que les Américains aiment, et donc on peut être certain que les Américains vont aller assez loin dans l'aide à l'Ukraine.
Mais alors Daniel, si l'année 2022 a été dominée justement par la guerre en Ukraine et la crise économique, est-ce que ça signifie que les autres zones de tension dans le monde dont on a souvent eu l'habitude hein, de discuter avec vous dans le cadre de nos conversations, est-ce que ça signifie que ces zones de tension ont été mises entre parenthèses tout au long de cette année?
Alors c'est pas une mise entre parenthèses, elles sont suspendues mais elles sont toujours là et elles sont tellement là que tout le monde, les deux parties, par exemple États-Unis et Chine, reconfirment que leur confrontation, c'est quand même le squelette de la géopolitique du 21e siècle. C'est autour de ça que ça va se bâtir. Et que tout le reste, la crise économique et même la crise en Ukraine, sont des conséquences de tout ça, ou sont liées plus ou moins à tout ça. Donc la priorité reste la confrontation États-Unis-Chine, parce que c'est les deux plus grandes puissances mondiales, qu'elles sont deux civilisations complètement différentes, et que si le monde doit retrouver un ordre, puisqu'aujourd'hui on est dans le désordre, si le monde doit trouver, c'est bien un compromis entre deux civilisations qu'il faudra trouver. Et pour l'instant, les Américains n'y sont pas prêts. Ils refusent la remise en question dans l'ordre mondial qui est occidental, mais ils disent non, il n'est pas occidental, il est universel. Donc, cette confrontation États-Unis-Chine va continuer. Elle va continuer selon les modalités qui ont été définies par Biden et Xi Jinping au mois de novembre, quand ils se sont rencontrés à Bali, c'est-à-dire qu'on va pas aller trop loin. Et puis alors le deuxième problème, c'est évidemment, c'est le Moyen-Orient. Et tout tourne autour de la question iranienne. C'est très intéressant cette question iranienne, parce que lorsque l'Iran aura la bombe, et il est en voie de l'avoir, ce sera un coup de tonnerre. Or, aujourd'hui, on fait comme si on n'en parlait pas. C'est une espèce de non-visibilité, de non-dit. Ce qu'on ne dit pas, c'est que les accords, les négociations à Vienne ont déjà échoué. Donc on fait semblant de continuer de négocier. Biden l'a d'ailleurs dit très naïvement la semaine dernière, c'est foutu, il n'y aura pas de signature d'accord, mais on ne le déclare pas officiellement. Bref, on a l'impression que le monde est en train de se préparer psychologiquement et surtout stratégiquement à vivre avec un Iran nucléaire. Quant à Israël, il sait que c'est un danger existentiel, et la seule consolation qu'il peut avoir, c'est qu'en réalité, un Iran nucléaire menace tout le Moyen-Orient et même le monde entier. C'est une menace pour tout le monde. Donc très franchement, on le met de côté parce que ça arrange bien tout le monde de pas en parler, mais il va bien falloir en parler un jour.
Il va bien falloir en parler un jour. Daniel, on n'a pas de boule de cristal, mais on peut tout de même se demander déjà à quoi va ressembler l'année 2023.
Non, on n'a pas de boule de cristal et c'est vraiment une année qui s'ouvre sur des incertitudes. Je n'ai pas lu dans les commentateurs géopolitiques les plus pointus d'idées claires chez eux. C'est vraiment l'incertitude. Personne ne peut dire quand la guerre en Ukraine se terminera. Les seules options, c'est un changement de régime, un renversement du leader, soit en Russie, soit même en Ukraine. Rien n'est impossible. Et donc, est-ce qu'il y aura un nouveau Gorbatchev qui remplacerait Poutine? Ou est-ce que les Ukrainiens seront prêts à se couper un bras pour sauver le corps? Oui, c'est des incertitudes, mais pour l'instant, personne n'est capable de pousser les deux parties à céder, et donc personne ne cédera parce que les objectifs sont complètement contradictoires. Donc on ne sait pas. Sur la crise économique, le plus probable, c'est que l'inflation qui mange du pouvoir d'achat va se terminer par une récession. On sent toutes les prévisions mondiales sont à un recul de la croissance mondiale. Elle sera autour de 2-3% dans le monde. C'est beaucoup l'incertitude économique qui va dominer l'année 2023. Et on va se terminer avec l'incertitude iranienne. Est-ce que 2023 sera l'année de la bombe iranienne? C'est pas du tout impossible. Qu'est-ce que fera l'Iran? Qu'est-ce qu'elle proposera? On le sait pas. Alors pour Israël, c'est un vrai problème. C'est un problème qui se conjugue avec ce nouveau gouvernement dont on dit abondamment qu'il n'a jamais été aussi à droite, ce qui n'est pas faux, avec un regain de la révolte palestinienne et avec le sentiment que les Palestiniens aujourd'hui peuvent créer du trouble dans beaucoup d'endroits, non seulement dans les territoires Judée-Samarie, mais aussi à Gaza, mais en Israël même, hein, où les 22% d'Arabes israéliens semblent vouloir un petit peu se détacher de l'ambition israélienne de les intégrer, et puis tous ces Palestiniens qui vivent au Liban, en Syrie, en Irak, en Jordanie, et qui vont évidemment agiter avec l'ambition de porter le problème palestinien au niveau mondial. Et là, malheureusement, ils trouvent des oreilles attentives, aussi bien en Europe que aux États-Unis, pour des raisons droits de l'homiste mal comprises. Donc tout ça encourage les Palestiniens à continuer de rêver un rêve impossible à atteindre, que même les Arabes savent qu'il est impossible à atteindre, d'où les accords d'Abraham. Donc on est dans une situation paradoxale où les Arabes ont compris l'évolution du problème palestinien, mais les Occidentaux semblent ne pas l'avoir compris et donc encouragent les mouvements palestiniens. On peut aller vers une troisième intifada, même si on peut dire qu'elle a déjà d'une certaine façon commencé. Donc vous voyez, les perspectives de 2023 ne sont pas roses et pleines d'incertitudes. Bon, c'est la vie. Bonne fête de fin d'année. Oublions pour quelques jours tout ça, mais on va retrouver de plein fouet dès le mois de janvier tous nos problèmes.
Merci beaucoup Daniel Haber pour tous ces éclairages. On vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année et très bonne semaine également. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.